Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire, ce soir, procès du journaliste Stanny Boudjakera. Le verdict est attendu avant le 20 mars prochain. La cause a été prise en délibéré au terme de l'audience publique d'hier vendredi devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Lancement hier vendredi à Mbujima et au Kasaï Oriental de la campagne de levée de fonds pour assister les femmes victimes des guerres et atrocités à l'est de la RDC. Dénommée « Femmes de l'Est plus jamais seules », cette campagne qui ira jusqu'au 23 mars prochain est une initiative de l'Université officielle de Mbujimayi. L'invité de ce journal est la directrice de la Maison de la Femme du Maniema. Fatouma Dalé Geneviève parle de ses réalisations, notamment la formation et l'insertion dans la société de près de 500 femmes vivant avec handicap, des femmes abandonnées et autres guéries de fistules. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le verdict est attendu avant le 20 mars prochain au procès du journaliste Stanny Boudjakera. La cause a été prise en délibéré au terme de l'audience publique d'hier vendredi devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Au cours de cette audience, le ministère public a requis 20 ans de prison contre le confrère qui a plaidé non coupable des faits mis à sa charge. En réaction à cette procédure, la défense du journaliste croit à ce que justice soit rendue en faveur de son client, partant de l'appréciation faite de ses moyens produits et développés. Rien n'a été établi contre notre client, déclare Maître Jean-Marie Kabengela au micro de Jeff Ngoy.
Dès l'ouverture du dossier, le tribunal a fait part à la défense de l'existence au dossier du rapport de l'expert par lui désigné. Et la lecture du rapport a établi que le fait mis à charge de notre client ne pouvait en aucun cas être déclaré établi. S'agissant de la propagation de faux bruits, l'expert n'a rien trouvé. Il en est de même de l'infraction des transmissions de messages erronés. Il est apparu évident à la lecture du rapport de l'expert que le fameux rapport sur le décès de Chérubin Okende n'a pas été rédigé au moyen de l'ordinateur ou de téléphone de notre client. C'est dans ce contexte que le dossier a été plaidé hier devant le juge que nous avons trouvé très préoccupé de rendre la bonne justice à notre client.
Au Nord Kivu, l'ONG Badilika, une organisation de défense des droits de l'homme, dresse un bilan macabre d'abus et de violations des droits de l'homme pour l'année 2023. Dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue hier ce samedi à Radio Kapi, cette organisation se dit scandalisée par l'ampleur des atteintes commises par les groupes armés locaux et les forces belligérantes dans les zones de combat en territoire de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru, où le mouvement rebelle du M23 vient en tête avec 333 cas d'abus et de violations des droits de l'homme. Son coordonnateur Patrick Kambale Nguka explique au micro de Gabriel Ouamenia.
Au cours de cette année de 2023, il a été rapporté 471 cas, dont 447 abus commis par les groupes armés actifs dans la zone, mais aussi il y a eu quelques violations des droits de l'homme. Il y a eu 24 viols perpétrés dans les zones de combat, c'est-à-dire dans les Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Et pour ces 24 cas de viol, on retrouve ces 13 femmes que nous avons documentées, 11 filles qui ont été violées. Il fallait comprendre que l'M23 à lui seul a été auteur de 333 cas de crimes. Des cas documentés au cours de l'année de 2023, il y a eu 383 cas commis par les alliés de FARDC. Et aussi, nous avons documenté 300 cas, soit des cas d'abus commis par FDLR, mais aussi il y a eu 24 cas, des cas commis par les forces de la République démocratique du Congo. Il fallait comprendre pendant cette année de 2023, les viols contre les filles et les femmes a été développé comme une arme de guerre, surtout par les éléments de Bertrand Bissimwa.
Notez que ce rapport n'a pas été confirmé par une autre source indépendante dans les territoires sous occupation de la rébellion. En Ituri, pendant ce temps, l'organisation Médecins sans frontières dénonce l'attaque par des hommes armés de l'hôpital général de Drodro dans la nuit du 6 au 7 mars dernier dans les territoires des Djougou. Dans son communiqué publié hier vendredi, cette organisation dont ses équipes travaillent au sein de cette structure médicale parle d'une tuée dans son lit d'hospitalisation et des matériels médicaux emportés par des malfrats. Marcel Kizabiamungu nous résume ce document.
D'après ce document, l'organisation médicale Médecins sans frontières, MSF, indique que ce qui s'est passé à Drodro est tout simplement horrible. Stéphanie Guadonato, responsable des programmes MSF en RDC, condamne les meurtres d'une patiente sans défense dans la manière la plus ferme possible. Elle exhorte toutes les parties à conflit à respecter et protéger les patients, les personnels médicaux, les établissements de santé, les civils et travailleurs humanitaires. Cette attaque, ajoute les communiqués, a causé une fuite massive des milliers de personnes dans la zone cherchant refuge au camp des personnes déplacées d'Héro, situé à 10 km au nord-est de Drodro. Les conséquences sont désastreuses pour la population, déclare Boubacar Mbalo, coordonnateur MSF à Drodro. Pour le moment, ajoute-t-il, l'hôpital de Drodro n'est plus fonctionnel, laissant les patients sans soins médicaux. MSF dit avoir évacué temporairement son personnel de cette entité. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, 50 ex-otages des rebelles des ADF, dont des enfants, ont été remis hier vendredi à leur famille à Beni par la fondation américaine Bridgeway. La plupart de ces ex-otages, dont l'âge varie entre 6 mois et 35 ans, avaient été recrutés de force par les rebelles des ADF. Ils ont été récupérés par la fondation américaine Bridgeway grâce aux campagnes de sensibilisation et de messages de réédition. André Kitenge pour les détails.
Ces ex-otages avaient été enlevés par les rebelles des ADF dans plusieurs villages du territoire de Beni. Certains ont passé une année en captivité, 3 ans pour d'autres et jusqu'à 10 ans pour d'autres encore. Lors de la cérémonie de remise à leur famille ce vendredi à la mairie de Beni, l'émotion était vive aussi bien pour ces ex-otages que leurs parents. C'est le cas de cette fille qui a 17 ans aujourd'hui, alors qu'elle n'en avait que 12 ans au moment de son enlèvement.
Je suis très contente. WHG et Bridgeway Foundation nous ont bien gardé et encadré. Je ne savais pas que j'allais retrouver une vie normale comme celle-ci. Maintenant, je vais regagner ma famille à bonne santé. Nous félicitons le gouvernement pour nous avoir aidés à quitter la bourse.
Le père de cet enfant n'a pas caché son émotion de revoir sa fille 5 ans après avoir perdu tout espoir. Norbert Katembokombi.
Je suis plein de joie de revoir mon enfant qui était pris en otage depuis longtemps sans le revoir. N'avait plus d'espoir, mais aujourd'hui, nous sommes pleins de joie de voir nos enfants revenir en famille. Et je dis merci au FARDC et à toute l'équipe comme celle des Bridgeway, je leur dis merci.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, plus de 150 000 ménages de déplacés venus des territoires de Masisi et de Rutshuru n'ont pas encore accès à l'assistance humanitaire. C'est ce qu'est renseigne la conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu. Elle a dit, alors qu'elle accompagnait hier vendredi la directrice exécutive de PAM, le programme alimentaire mondial, dans les sites de déplacés, dont le camp de Boulengo, à l'ouest de la ville de Goma. Des détails avec Chris Mukand.
Sitôt arrivée à Goma, Cindy McKen, directrice exécutive des PAM, s'est rendue dans le camp de Boulengo, l'un des sites qui accueille les vagues de nouveaux déplacés en provenance des territoires en proie aux affrontements entre les FRDC et les terroristes du M23-RDF. Ici, on peut se faire une idée exacte des conditions de vie difficiles de ses compatriotes. Madame McKen affirme avoir effectué le déplacement du Nord Kivu dans le but de se rassurer de la manière dont les personnes se nourrissent dans les camps des déplacés, singulièrement les femmes et les enfants.
And most of all, we want to make sure that the women or children and children are cared for and fed.
Et par-dessus tout, nous voulons nous rassurer que les femmes et les enfants sont pris en charge.
Well, my contribution is that I understand I need more funding in here, and I need to make sure that the world does not forget DRC in any of these crises around the world. This is a serious crisis.
Ma contribution est que je dois comprendre que le monde ne doit pas oublier ce qui se passe ici à l'est de la RDC.
Saisissant l'occasion de cette visite, Madame Prisca Luanda, conseillère du gouverneur militaire du Nord Kivu, a plaidé pour plus de soutien et d'assistance afin d'arriver à satisfaire, tant que faire se peut, les besoins urgents des déplacés à travers les différents sites. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, lancement hier vendredi à Mbujimaï de la campagne de levée de fonds pour assister les femmes victimes de guerre et atrocités à l'est de la RDC. Cette campagne de levée de fonds dénommée Femmes de l'Est plus jamais seules est organisée par l'Université officielle de Mbujimaï, IOM. L'opération, qui a commencé le 8 mars dernier, va s'étaler jusqu'au 23 mars prochain. Des explications avec Esther Ndalafina.
Cette campagne de levée des fonds dénommée Femmes de l'Est plus jamais seules est appuyée par une vidéo diffusée par l'Université officielle de Mbujimaï, initiatrice de cette action. À travers cette vidéo qui circule déjà sur les réseaux sociaux, les étudiants de l'IOM montrent les déplacés de guerre avec des fardeaux sur la tête, des familles malnutries ainsi que des difficultés auxquelles sont confrontées les populations de l'Est. Au nom de cette université, ces étudiants attirent l'attention de toute la population du Kasaï oriental et sollicite des fonds pour assister les femmes victimes des atrocités à l'Est. Deux numéros sur lesquels les bienfaiteurs peuvent transférer ces fonds sont communiqués sur la vidéo. La campagne de levée des fonds qui a commencé le 8 mars dernier se clôture samedi 23 mars prochain. Le professeur Abbé Recteur Chibakachi Kongo signale qu'à cette dernière journée, une grande opération de levée des fonds est prévue dans l'auditorium du cinquantenaire de l'UOM. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Kapi.
À Kalemi, environ 400 personnes, essentiellement des jeunes filles de 9 écoles différentes, ont participé hier vendredi à une manifestation organisée par le club UNESCO Tcheko en collaboration avec le club Ukweli. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Cette activité a tourné autour du thème « Briser les inégalités entre les filles et les garçons pour construire demain une société juste et équitable ». Le point avec Paul Mounanga.
François-Xavier Mibé, directeur du club UNESCO Tcheko, revient sur les inégalités qui existent entre les filles et les garçons dans la société et explique comment on peut parvenir à les briser.
Ces inégalités sont observées beaucoup plus dans les milieux ruraux, même aujourd'hui encore. Comment comprendre? Dans certaines familles, ce sont les filles qu'on n'amène pas vraiment à l'école. Les mariages précoces frappent beaucoup plus les filles. Vous allez remarquer que même dans la fonction publique, dans les services, quels qu'ils soient, il y a de moins en moins des femmes, tandis que les hommes semblent vraiment être valorisés. C'est une injustice sociale qui doit absolument être combattue. L'engagement de tout le monde est nécessaire. De la même manière dont on lutte pour les libertés, la justice, mais lutter aussi pour les droits de la femme.
Au cours de cette manifestation, il y a eu des exposés qui ont été faits sur les thèmes de cette année en rapport avec la Journée internationale des droits de la femme et sur l'hygiène intime de la jeune fille. Une messe a été dite à l'Institut technique et professionnel Luboui et Don Bosco à la fin de la manifestation. Kalemi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Au Maniema, l'affaire de la spoliation de l'emprise aéroportuaire de l'aéroport national de Kindu a conduit à l'arrêt des travaux de sa modernisation. Pour tenter de mettre un terme à la situation, le directeur général de la RVA séjourne à Kindu depuis hier vendredi. Aussitôt arrivé, Leonard Ngoma Mbaki a tenu une séance de travail avec l'équipe de la RVA Kindu avant de rencontrer l'autorité provinciale. Au sortir de l'audience, le DG de la RVA a affirmé à la presse que la RVA, étant une entreprise de gestion de l'État, dispose de tous ses documents officiels. On écoute Leonard Ngoma Mbaki dans ce propos recueilli par Florence Kizalunga.
Depuis 1956, les certificats existent, laissés par la colonie. Nous allons partir de là pour délimiter, parce que le gouvernement a un grand projet pour cet aéroport. Il voudrait bien le rendre comme un aéroport international, face à son utilité sur les plans aériens. Ce que je peux dire à la population, d'avoir confiance au gouvernement provincial, d'avoir confiance à la RVA. La RVA n'est qu'un gestionnaire. Les aéroports sont pour l'État congolais. En principe, on ne devrait pas se permettre, quoi qu'on soit conservateur, d'aller lotir sur l'emprise aéroportière. On ne peut pas le faire, parce que c'est pour l'État congolais. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'État. Il n'y a personne qui est plus fort que l'État. Mais je sais que la population soit calme, nous allons trouver solution ensemble. Et j'ajoute que je vais demander à mes directeurs qui m'ont accompagné qu'ils puissent passer dans les radios pour faire passer les messages, même en langue, pour que tout le monde puisse comprendre. Que désormais, si on vous demande d'aller prendre une parcelle sur l'emprise aéroportière, ne le faites pas parce que plus tard, ça sera démoli. Comme c'est le cas, toutes ces maisons-là seront démolies.
Actualité internationale.
Grand chambardement au Parti démocratique gabonais, PDG. Cet ancien parti au pouvoir, créé il y a 56 ans, a évincé hier vendredi Ali Bongo de la présidence du mouvement. La mère de l'ex-chef d'État a également été radiée. Un nouveau directoire vient d'être nommé. Au Sénégal, un nouveau gouvernement a été nommé hier soir par le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba. Il sera chargé de mener le pays aux élections le 24 mars prochain, et alors que la campagne s'est ouverte cette nuit à minuit.
L'invité.
L'invité de ce journal est la directrice de la Maison de la Femme du Maniema, Fatouma Dalé Geneviève, parle de ses réalisations, notamment la formation et l'insertion dans la société de près de 500 femmes vivant avec handicap, des femmes abandonnées et autres guéries des fistules. Fatouma Dalé Geneviève s'entretient à Kindou avec Florence Kizalunga.
Madame Fatouma Dalé Geneviève, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes au mois de la femme. Qu'est-ce que la Maison de la Femme du Maniema fait en faveur des femmes et filles de cette province?
La Maison de la Femme du Maniema a pour mission régalienne, s'occupe de la formation, le renforcement des capacités de toute catégorie de femmes, en accent particulier aux groupes vulnérables, pour leur autonomisation et prise en charge.
Quand vous parlez des groupes vulnérables, vous faites allusion à quelle catégorie de femmes?
Nous voyons des filles et mères, femmes fistulées, les femmes abandonnées, les femmes vivant avec handicap.
Vous les encadrez en quoi?
Nous avons plusieurs corps de métier. Nous avons la coupe et couture, l'informatique, pâtisserie, tissage de paniers, fabrication de foyers améliorés et réchaud à gaz. Nous avons beaucoup de corps de métier dans notre maison.
Et qui finance toutes ces activités de la Maison de la Femme?
Nous avons plusieurs bailleurs de fonds. Nous avons les FAO, Pneus de PAM et l'UNFPA. Les SGP aussi pour le moment et l'UNFPA.
C'est depuis quand que vous avez commencé ces activités ici à la Maison de la Femme?
Bon, il y a de cela 14 ans, c'est depuis l'année 2010 que la Maison de la Femme du Maniema a commencé à exister.
Et durant toutes ces années, combien de femmes avez-vous déjà insérées dans la société?
Nous avions inséré 482 femmes dans la société.
Et parmi ces quatre, on a combien de filles mères et combien de femmes vivant avec handicap et autres?
Nous avons 183 filles et mères insérées dans la société, 82 femmes fistulées, guéries des fistules, 51 personnes vivant avec handicap et 166 femmes abandonnées.
Après les avoir insérés dans la société, et comment vous faites leur suivi?
Nous faisons leur suivi par des centres souterrains pour voir comment elles évoluent et si elles sont capables d'apprendre aussi à charge les autres femmes du milieu.
Quand vous les prenez en charge, par exemple, en coupe couture, est-ce que vous les dotez aussi des kits, des machines, par exemple, pour leur autonomisation complète?
Oui, des fois, quand nous avons des bailleurs qui nous donnent le kit de réinsertion, nous les faisons. Il y a de cela deux fois qu'on a fait. L'année 2010, il y avait la réinsertion à raison 5 femmes pour 3 machines. Et cette année ici aussi, on a fait encore une machine pour 4 femmes.
Et comment est-ce que 4 femmes peuvent utiliser une seule machine?
C'est juste pour les aider. Quand les femmes là ont une machine là, peuvent l'utiliser en mettant l'argent dans une caisse. Et par après, petit à petit, les femmes peuvent continuer encore à acheter d'autres machines. Et pour le moment, tout le monde, toutes les 4 femmes ont déjà 4 machines.
Y a-t-il des conditions pour intégrer votre groupe ici à la Maison de la Femme?
Non, je peux dire qu'il n'y a plus de conditions. Tout le monde peut venir, la porte est ouverte, mais sauf seulement il y a un peu de critères à raison des corps de métier que la femme préfère faire.
On peut savoir ces critères, madame?
Donc, critère est d'abord que la fille soit fille et mère, ça c'est un. Femme guérie des fistules, les personnes vivant avec handicap et les femmes abandonnées. C'est juste ça.
À part ça, même s'il y a un volontaire et une volontaire qui accepte de venir intégrer votre groupe, elle ne sera pas acceptée?
Non, on ne peut pas dire qu'elle ne sera pas acceptée, mais qu'elle vienne d'abord ici dans la maison et par après on verra si elle est dans la critère ou comment.
Alors, un petit message à toutes les femmes et aux hommes aussi qui vous suivent en ce moment.
Aux femmes, à toutes les femmes du Maniema, nous leur souhaitons bienvenue à la Maison de la Femme du Maniema, qui est un cadre de concertation de toute catégorie de femmes. Il y a des métiers qui donnent les femmes à se prendre en charge. Aux hommes également, nous disons ceci. Nous demandons qu'ils nous envoient leurs femmes et leurs filles devenues apprendre les métiers.
Je crois qu'il y a aussi nécessité de lancer un petit message aux bailleurs des fonds.
Oui, nous disons aux bailleurs de fonds de venir nous assister parce que nous avons beaucoup de filles et de femmes vulnérables ici au Maniema qui ont vraiment besoin de formation. Malheureusement, on n'a plus rien, on ne sait plus comment les prendre en charge parce que c'est pour cela que nous invitons nos bailleurs de fonds de venir nous tenir en aide pour le bien des encadrés.
Madame Fatouma Dalla Geneviève, merci de nous avoir accueillis.
Merci beaucoup, Madame Kizialunga.
Et c'était notre invitée, la directrice de la maison de la femme du Maniema, Fatouma Dalla Geneviève, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizialunga. Fin de ce journal, merci de l'avoir écoutée.